L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans l'EM, votre quotidienne sur le 100.4 de Transistor. Nous sommes ensemble de midi jusqu'à 13h. C'est en live et ce soir, vous pourrez réécouter l'émission à 18h. N'oubliez pas, nous sommes aussi sur Internet, sur vos téléphones portables aussi. La petite semelle est de retour avec nous en plateau aujourd'hui. Alors bonjour Dominique Appert.
Bonjour Davy.
Bah, vous êtes la directrice de la compagnie, c'est vraiment pour faire court. Vous êtes accompagné de Simon Lepape, qui est en charge de la communication. Bonjour Simon.
Bonjour Davy.
Alors c'est pareil, hein, mais en fait, votre truc, en fait, c'est que vous êtes surtout multipasse, multitâche. Vous faites tout, absolument tout, avec votre petite main. C'est ça qui est le plus important au sein de la troupe. Alors on va parler un petit peu de la scénographie aujourd'hui dans le théâtre de marionnettes. C'est peut-être quelque chose d'un petit peu particulier. Est-ce qu'il existe différents types déjà de théâtre de marionnettes et existe-t-il des spécificités scénographiques pour chacun de ces types?
Alors oui, il existe des quantités de théâtre de marionnettes différents, donc qui n'ont pas les mêmes démarches, donc qui ne vont pas avoir du tout les mêmes propositions scénographiques. Après, la scénographie, c'est quelque chose d'assez général, qui englobe un scénographe, c'est quelqu'un qui va inventer un décor en fonction du scénario, en accord avec le metteur en scène et l'ambiance et le fil conducteur que va avoir le metteur en scène. Et en fait, un scénographe, c'est quelqu'un qui va créer un mobilier d'espace pour le spectacle, qui va avoir un rapport. Et donc, en fait, ça, c'est le principe. Et on peut être scénographe aussi bien d'une vitrine, où maintenant, il y a beaucoup de scénographie dans les musées, dans les...
Oui, pour les expositions.
Pour les expositions. Maintenant, la scénographie, ça se met partout. Dans les vitrines à Paris, les Galeries Lafayette, l'univers, c'est une vraie scénographie aussi. C'est une manière de mettre en place un espace de décoration et d'objets. Après, il y a les obligations et le cahier des charges du spectacle lui-même. Quoi.
Mmh. Et pour les marionnettes, il y a quelque chose de vraiment spécifique dans la scénographie ou pas? Par rapport à du théâtre classique?
La taille. La taille. Le fait que... ouais, il y a déjà la taille parce que les proportions sont différentes étant donné que les acteurs sont marionnettes. Les acteurs sont des marionnettes. Donc du coup, il faut faire une proportion. Et puis après, tout va dépendre de quelle fenêtre on va se placer pour regarder le spectacle et l'inventer au niveau de sa scénographie. Parce que pour une même histoire, on peut faire une scénographie totalement synthétique, c'est-à-dire très conceptuelle, on va dire. Tout comme on peut faire une scénographie très réaliste. Par exemple, si on veut faire une forêt, on peut créer des arbres et faire une forêt avec des arbres qui vont être des arbres. Et puis on peut aussi symboliser des arbres par autre chose. Après, tout est en fonction aussi du choix qu'on va faire entre le scénario qui existe, parce que le scénographe, il est obligé vraiment de se plier au scénario et aux exigences du metteur en scène.
Et aussi par rapport à la manipulation de la marionnette.
Voilà.
Puisque il existe plein de techniques de manipulation. Et si c'est une marionnette à fil, la scénographie va devoir en tenir compte, comme si c'est une marionnette comme nous, on fait plus souvent, qu'on tient derrière avec des crosses. Ou si c'est une marionnette à tringle qui est déjà beaucoup plus grande et qu'il faut tenir compte du manipulateur.
Alors pour toutes ces petites spécificités de technique d'animation de la marionnette, je vous invite à réécouter les deux dernières émissions qu'on a fait avec la petite semelle. Alors est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer, vous, dans quel contexte environnemental la petite semelle a choisi d'évoluer, puisque vous venez de dire qu'il y avait plusieurs façons. Et bien, allez-y, je vous écoute.
D'accord. Bah, nous, la petite semelle, comme elle existe depuis 30 ans, elle a fait plein de phases différentes. Et puis là, maintenant, nous, on est vraiment orientés sur le jeune public. Et donc, nous, on fait des mises en scène et des scénographies pour le jeune public. Donc, c'est déjà...
Ça, c'est la base.
C'est la base, voilà. Après, la scénographie, ben, en fait, quand on va écrire une histoire, on va choisir une histoire. Soit elle est déjà existante et on va tirer ce qui nous plaît en matière de cette histoire, ou soit on va l'écrire. Une fois qu'on va l'avoir écrit, celui qui l'a écrit, il a déjà une idée scénographique. Ça vient tout seul, quoi, en fait. On a une idée de où on veut le passer, dans quelle ambiance on veut le mettre. Et par exemple, je me souviens d'une scénographie qui a été très importante, très sympa à faire. On a monté un spectacle qui s'appelait Les Portes du Vent. C'était l'histoire d'une capitaine de bateau qui, avec une légende bretonne. C'était assez joli. Et on a tout choisi avec une scénographe. Donc on a travaillé sur le texte, sur les impératifs de déplacement de marionnettes. Parce que quand on fait une scénographie, il faut compter tout. Les déplacements de la marionnette, les éclairages, tout va être emboîtable. Ouais. Emboîtable, quoi. Et donc, du coup, on a fait ça. Et quand on l'a fait, j'ai écrit l'histoire avec quelqu'un, avec un auteur qui m'a aidé. Et donc, une fois que l'histoire a été faite, j'avais une idée d'ambiance, mais je n'arrivais pas à l'exprimer. Et puis, par hasard, je suis allée au musée de Quimper. Musée Breton de Quimper. Et il y avait une expo de Bernard Buffet. Et je suis tombée d'amour pour l'ambiance des peintures bretonnes de Bernard Buffet. Et après, j'ai contacté une scénographe. Et Maïté, la scénographe, je lui ai envoyé le texte, je lui ai envoyé tout ça. Et quand elle est arrivée, elle m'a dit, j'ai vu un truc, je te le propose. Et moi, au musée, j'avais acheté le livre de Bernard Buffet. Et on a fait bataille, on avait toutes les deux le même livre. Et donc, on s'est très bien entendu pour la scénographie, parce qu'on n'a pas copié Bernard Buffet, on est resté dans... Voilà, l'ambiance est très importante entre tous les pôles de travail pour... C'est super passionnant, la scénographie.
Alors ça, c'est super joli. Hein. C'est, on est un petit peu dans le moment où on rêve, dans le moment créatif, mais il y a un moment donné, il faut revenir à la réalité.
C'est ça.
C'est le moment où on va devoir mettre les choses en place. Et il y a une chose qui est très importante, c'est déjà votre espace de travail. Alors, on en avait déjà parlé, mais Simon, pouvez nous rappeler, c'est quoi le cadre? Ça ressemble à quoi? Quand on arrive au théâtre, par exemple, de la Petite Semelle, quand on arrive dans la salle, qu'est-ce qu'on voit?
Un théâtre, on travaille toujours dans un espace, nous on appelle ça un carré noir comme un théâtre normal. Et en fait, il faut aménager ce carré noir. Donc pourquoi noir? Parce que avec la lumière, on va mettre en valeur notre scénographie, les décors, les marionnettes. Et donc il faut partir de ce carré, on va dire, qu'on sait qu'on peut déplacer. Et aménager un espace dedans. Donc en général, nous, notre carré noir, il fait 4 mètres sur 4 mètres, enfin 5 sur 5. Mais on essaye de faire un spectacle qui rentre dedans, plus petit, et que les proportions soient bien gardées, que les couleurs marchent dans ce carré noir et attirent le public. Comme disait Dominique, on joue pour le jeune public, donc faut en tenir compte aussi. Faut pas que ça soit trop sombre. Enfin, ça dépend ce qu'on veut faire exactement. Et puis après, il y a aussi les proportions, comme tu disais aussi, Adam. C'est que en fait, si on veut mettre une perspective. Faut pas non plus faire une vraie perspective, parce que faut tricher un peu dans le théâtre pour que justement le public ait l'impression d'une perspective, mais que nous on soit pas à monter sur une échelle pour aller jouer dans une tour très haute. Par exemple, si c'est une princesse qui est en haut d'une tour, on va pas nous derrière monter sur une échelle pour aller jouer. Quoi.
Ouais, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre carré noir, donc de 5 par 5, en fait, c'est tout un tas d'éléments. Donc, le premier élément, c'est une grande table en fait qui sépare le public de la zone de travail, c'est ça?
Oui et non, parce que en fait, la table, c'est nous toutes les tables. En fait, nous on fait de la marionnette à crosse, c'est-à-dire qu'on la... Tu voulais dire
Non.
Elle se manipule sur table. Elle a le schéma corporel normal. C'est ce qu'on appelle des marionnettes de table. Mais en fait, on n'a pas toujours une table. Cette table-là, elle est pour certains... c'est ce qu'on appelle des praticables, c'est-à-dire des espaces de travail. Mais on pourrait avoir 5 petits morceaux d'espace de travail, ou même, comme dit Simon, on peut même monter sur un petit escabeau pour remonter sur une autre hauteur ou créer. Parce que toute la scénographie, c'est... si on fait un spectacle, on va peut-être déplacer les décors. Il y a des décors qui ne se déplacent pas. Il y a des spectacles où on ne déplace pas les décors.
C'est exactement là que je voulais en venir. C'est que vous dans votre espace de travail, donc vous avez le praticable. Alors, ce que moi, j'en ai vu, hein, c'est le praticable qui sépare le public de
la scène des marionnettes.
Et derrière, il y a plein de choses.
Voilà.
Derrière, il y a plein d'espaces justement pour créer cette perspective.
Hein.
Votre profondeur, ouais. Alors, quel est l'intérêt d'avoir justement des profondeurs, d'avoir des choses qui sont amovibles dans la scénographie? Qu'est-ce que ça apporte?
Alors déjà, c'est selon le moment de l'histoire, on a besoin de raconter quelque chose qui n'est pas en cohésion avec le décor de notre praticable.
Bah, donnez-moi un exemple concret.
Et bah, par exemple, on joue...
Par exemple, pour la maison du bout du monde, en fait, sur le premier plan, on a le jardin de Popette et sa balançoire. Et en fait... À un autre moment, on a besoin de montrer la maison de plus loin et on ouvre les pendrillons arrière. Donc, on crée un nouvel espace et derrière, il y a une maison beaucoup plus petite.
Donc, les pendrillons, c'est des cloisons amovibles.
C'est des cloisons amovibles, des tissus, on va dire, noirs. Donc, en fait, le public ne voit pas. Et quand on ouvre, on donne une perspective de sa maison qui est plus loin que le jardin et on la fait en plus petite. Et ça permet une profondeur et du coup, on joue une scène différente du jardin.
On peut faire quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer avec ces effets de profondeur?
On peut tout imaginer, mais absolument tout. Par exemple, une fois, on a fait un quai de port. Et pour que le bateau puisse rentrer dans la mer, alors qu'on n'avait quand même pas un très très grand espace, on a trouvé un moyen que ce port s'ouvre en deux. Donc... visuellement, on voit le déplacement des ports et on a changé le décor. En fait, c'est ça, c'est la scénographie, c'est aussi toutes les ficelles, tous les petits trucs ingénieux qui vont faire que non seulement l'histoire est intéressante, mais on ne va pas non plus s'ennuyer et rester toujours avec le... En fait, il ne faut jamais que ce soit linéaire, un spectacle. Il faut que ce soit... faut toujours relancer la machine, quoi. Faut toujours que ce soit. Et c'est intéressant, même pour nous, c'est des challenges de trouver des astuces.
Des astuces, ouais.
Plein d'astuces, quoi. Donc, du coup, bah, par exemple, je pense que pour la maison Biscornu, ce prochain spectacle qu'on devrait faire bientôt, on va avoir une astuce qu'on va mettre une grille sur notre plafond, parce qu'on va faire descendre des choses du plafond. Ça sera encore un autre style de. Ça fait partie aussi de la scénographie, quoi.
Ah, ça, c'est quelque chose que vous n'avez peut-être, je crois, pas encore fait.
Non,
chose
parce qu'on n'a jamais eu de grille sur notre plafond.
Évidemment.
Parce qu'avant, on avait un théâtre où le plafond était si haut que la grille, c'était mission impossible. Et là, dans ce théâtre, on pense mettre une grille pour des petites choses, quoi. En fait, la scénographie, c'est ça, c'est de trouver des ficelles et surtout que le public... que rien soit téléphoné, quoi, que rien soit prévu d'avance, quoi, que le public ne puisse pas déjà miser sur...
Il faut arriver à les surprendre, d'où l'intérêt de faire des choses qui sont des cloisons amovibles, des choses sur roulette pour justement créer la surprise. Ça permet de créer de la rétention aussi pour le spectacle. Parce qu'un spectacle, ça dure quoi? Entre 30 et 45 minutes?
Ça peut durer entre 30 et... Après, ça dépend des marionnettistes. Il y a des spectacles qui peuvent durer une heure et demie. Hein.
Ouais.
Mais nous, grosso modo, passer une heure, on ne joue jamais. Quoi.
Parce que c'est pour les, ouais, c'est pour les enfants.
Parce que c'est pour les enfants, puis qu'il faut le tenir. Un spectacle de marionnettes, il faut le tenir. Voilà, il faut...
Ouais. Alors, on parle des décors un petit peu. Ça fait partie des décors de la scénographie. Quel genre de décor on peut trouver dans un spectacle de marionnettes?
On peut trouver aussi bien des vélos que des poussettes, que des arbres, que des maisons, que des rideaux, que des...
Bah, tout est possible.
Tout, on peut tout.
On ne fait pas les animaux. Ouais. Quoique, on ne fait pas le vivant.
Quoique vous faites quand même, oui.
Autrement, tout décor en fonction de l'histoire et en fonction de ce qu'on veut faire. C'est à nous d'adapter en fait plutôt ce qu'on veut mettre sur scène et de le rendre, le mettre dans la scénographie. C'est, on faut pas s'imposer, faut pas se limiter. Justement, c'est ça l'intérêt, quoi. Bah, après, il faut trouver l'astuce, comme disait Dominique.
Ouais, c'est l'intérêt et c'est en même temps la difficulté.
Et... c'est la difficulté, mais c'est le challenge et c'est ça, ouais, qui est passionnant. Parce qu'au moment où on crée le spectacle, là, on a l'histoire, on attend Manuela, mais une fois qu'elle va être là... Simon et Manuela vont se mettre sur le plateau, on va mettre tous les éléments de la maison Biscornu et on va voir ce qu'il nous faut pour pouvoir aménager, pour que ce soit poétique, joli, pour que ce soit intéressant, pour que ce soit... Et puis on va se lancer des challenges pour voir, on aimerait bien faire quelque chose, est-ce qu'on peut le faire, comment on peut le faire. Parce qu'aussi la scénographie, ça a un budget, bien sûr.
Bah oui, parce que...
Fatalement, donc après, nous on fait de la scénographie assez simple, on met très peu de technique. Parce qu'il y en a, tu peux mettre de la scénographie, tu peux utiliser des rétroprojecteurs, des ordinateurs, tu peux...
De la machinerie intérieure.
La machinerie, des machines à fumer, des toutes sortes de... Tu peux mettre beaucoup de choses.
C'est volontaire de votre part ? Ou c'est vraiment une question ? C'est vraiment
aussi parce qu'on est un peu les deux, parce que déjà on est limité, on n'a pas des finances énormes. Ouais. Mais en même temps, c'est un challenge parce que des fois, on s'aperçoit qu'on met des machineries ou on met une technique qui a un certain coût, qui coûte un peu cher. Et en fait, il existe d'autres stratèges ou d'autres astuces qui coûtent rien, mais qu'on a oublié ou qu'on ne pratique plus.
Puis tu sais, c'est des systèmes de travail. Je pense que la compagnie elle-même gère ce qu'elle peut gérer. Voilà. Mmh. Moi, je dis une chose, c'est que à chaque fois qu'on cherche une idée, je fais toujours une espèce de liste où je marque qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je gagne. Parce qu'en fait, on va gagner un décor qui va faire très très beau, mais qu'est-ce qu'on va perdre si ça se trouve, vu qu'ils vont être que deux sur le plateau, ils ne vont pas réussir à le gérer, mmh. ou etc. Et du coup, on ne va rien gagner du tout. Donc, il faut toujours peser ce qu'on est capable de faire. Il faut être malin, il faut être ingénieux, mais en même temps, il faut aller là où on est capable de maîtriser. Quoi, parce que...
Sur cet exemple, on a monté un spectacle où on a voulu faire de la rétroprojection et on a voulu dessiner dans le sable sur un rétroprojecteur. Et en fait, l'inclure dans le spectacle, essayer de cacher ce rétroprojecteur qui prenait une place folle sur la scène, et en plus la lumière que ça projetait, enfin que ça faisait, ça nous a demandé beaucoup, beaucoup. On a investi, on a réfléchi, on a essayé à plein d'endroits. Et au final, pour ce que ça donnait dans le spectacle, c'était pas intéressant de le garder. Donc des fois, on fait des choix, on se dit que un choix technique ça peut être bien, et en fait, on se rend compte qu'il nous prend beaucoup trop d'espace ou il nuit un peu au spectacle, au résultat.
Trop de technique.
Voilà. Et donc on l'enlève.
Pas assez de travailleurs. On aurait eu, tu vois, c'est ça aussi. Cet système qu'on a essayé était très beau, mais on n'avait pas le personnel qui allait avec. Et donc, du coup, il nous aurait fallu une cabine. Nous, on avait un vrai problème de directionnement de tout. Enfin, c'était compliqué.
Mais la
philosophie, donc on a lâché,
c'est que c'est pas parce que on peut pas le faire ou on n'a pas les moyens que ça va nuire au spectacle et qu'on ne peut pas le faire. Mmh. C'est à nous de trouver l'astuce différente ou proposer autre chose.
Et c'est ça qui est passionnant aussi, oui. C'est de chercher les petites astuces. Quoi.
Alors, comment on fait pour gérer justement, on en a parlé plusieurs fois, l'échelle. J'imagine que l'échelle entre les marionnettes et le décor, en tenant compte de l'espace de travail, je pense que j'imagine que c'est un vrai problème, non ?
Comment ça se gère ? Oui, c'est un problème, mais oui et non, je dirais encore, parce que c'est un problème dans le sens où il faut que ce soit accepté par le public, il faut que ce soit...
Compris.
Il faut que ce soit intégré bien dans le spectacle. Quoi. Mais par exemple, dans La Maison du Bout du Monde, si on reprend ce spectacle, Simon est acteur, il est le père de l'enfant.
Ouais, alors, pour le coup, on le voit...
Et il manipule.
Enfin, on le voit.
Oui, on le voit tout le temps, il joue. Il joue
oui,
comme acteur.
Avec son visage et
voilà,
tout ça.
Voilà, ouais. Et la marionnette, elle fait 40 cm, donc c'est sa petite fille, et ça fonctionne extrêmement bien.
Après, pour les proportions, par exemple, d'une maison, on ne va pas faire une vraie maison où la marionnette peut rentrer dedans. Mais il faut que la maison paraisse un peu plus grande. Après, c'est juste l'imaginaire de n'importe quel spectateur. Enfin, tout être humain a de l'imaginaire. Et si la maison est plus grande que la marionnette, on comprend que c'est sa maison. Il n'y a pas besoin d'avoir une porte où la marionnette va rentrer dedans exactement. À moins qu'on ait besoin pour l'histoire. Mais la proportion... On fait pas de l'échelle, quoi. Sinon, on s'en sortirait jamais.
On marionnette pas trop, non.
Ouais. Pourtant, dans La Maison du Bout du Monde, ce moment où on voit la maison de loin, vous faites quand même sortir la marionnette de la porte, il me semble.
Oui, parce qu'on a fabriqué une marionnette minuscule pour aller dans la maison.
Oui, et puis alors, elle est grande comment par rapport
elle
à...
Elle doit faire... même pas 10, oui.
Ouais. Et Popette fait 40 cm quand elle joue dans son
mais il y a des spectacles où on a fait l'héroïne ou le héros en plusieurs tailles. Ouais. 3-4 tailles éventuellement.
Ouais.
Justement, parce que c'est là qu'on va jouer sur la proportion. Justement, dans Les Portes du Vent, c'est pareil. Adèle, l'histoire de cette femme marin là, de 94 ans, à un moment donné, elle va se retrouver dans une tempête de fous. Et sur la scène, on ne pouvait pas créer ça, les vagues, son naufrage, on ne pouvait pas le créer en grand, parce qu'il aurait fallu, voilà, ça n'allait pas. Et finalement, on l'a créé en minuscule. Donc en fait, c'était un petit îlot de spectacle dans un espace noir. Et ça marchait super, quoi.
Tiens, en parlant d'espace noir, quel est le rôle de l'obscurité dans un théâtre de marionnettes ?
Ah bah, si t'as pas le noir, tu vois tout.
Alors, ah, déjà... ça me paraît évident.
C'est-à-dire que déjà, beaucoup, on se déplace
oui,
beaucoup.
Oui, c'est exactement ça.
C'est-à-dire qu'on se déplace, nous, beaucoup, parce qu'il faut aller chercher des éléments de décor, il faut changer les marionnettes. Donc déjà, même s'il y aura une scène où il y a une marionnette qui fait quelque chose, si ça se trouve, l'un marionnettiste, il est parti chercher un élément de décor, il est parti faire autre chose, et on va le voir déjà. Or, le fait que ça soit tout noir et que la lumière soit concentrée que sur l'action, bah, tout de suite, on oublie le reste. Et aussi, ça permet un peu de mettre de l'attention des fois sur un détail ou un objet d'oublier des couleurs ou une partie de l'histoire, quoi. C'est-à-dire que si on veut concentrer sur une scène ou sur un moment, on met en valeur avec les lumières. Le noir nous permet justement d'oublier le reste. Quoi.
Et puis tout ressort bien sur le noir avec les lumières. Quoi. Tu vois, quand tout est noir, par exemple, on peut avoir un spectacle qui est monté, donc avec des praticables, il y a des décors, et puis d'un coup, on veut juste focaliser sur une marionnette. On ne veut pas autre chose que cette marionnette qui va dire quelque chose. On peut faire un cut, on peut faire un noir total. Et mettre juste une lumière sur elle, et le public oublie tout. Il n'y a plus qu'elle qui flotte. Voilà, la lumière, le noir, c'est bien pour le théâtre.
Oui, voilà.
c'est indispensable. Mais après, on joue dans la rue. Dans la rue, il n'y a pas de noir. Hein. C'est pas grave non plus. Mais c'est autre chose.
C'est plus magique quand
c'est magique.
C'est plus intéressant.
Les choses ressortent mieux et le public oublie très vite le reste. C'est vrai que dans la rue, quand on joue... peut y avoir quelques personnes du public qui tout d'un coup vont s'intéresser à Dominique qui est partie en arrière-décor et ils se sont dit eh ben, qu'est-ce qu'elle est partie faire. Dans le noir, Dominique, par exemple, elle est sortie de sa marionnette ou de la scène et tout de suite elle a disparu dans l'espace et dans le regard de biais des gens. Alors que c'est vrai que quand on joue dans la rue, ben, la personne peut la suivre en train de se déplacer et ça pollue. Ça déconcentre.
Bah, par exemple, dans la rue, quand on jouait cabaret, j'ai vu beaucoup, beaucoup de gens, parce que c'est un spectacle où il y avait beaucoup de monde, et les gens vont derrière voir comment on fait, parce que ça les passionne aussi. Mais bon, c'est pas le but. Voilà, dans la rue, ça, c'est autre chose, quoi.
Bon, alors, l'émission est presque terminée, ça passe d'accord. Super vite, on a encore, comme d'habitude, on n'a rien fait. C'est quoi le programme, un petit peu, pour cet été-là ?
Ah, ça, c'est
alors, cet été, on ouvre à partir du 17 juillet, donc du mardi 17 juillet jusqu'au 23 août. Et on joue 4 spectacles différents. Donc, on ne l'a pas dit, mais on a un peu de retard encore avec notre nouvelle création, puisque cette fois-ci, ce n'est pas Dominique, mais c'est Manuela qui a eu un accident et qui s'est aussi fracturé le bassin.
On l'embrasse.
on lui fait des milliers de bisous.
Et donc, du coup, on joue 4 spectacles différents. On joue La Dragonne de la rue Wojtyszka, La Maison du Bout du Monde, Le Vilain Petit Canard et Les Aventures de Linette, la poulette qui n'en fait qu'à sa tête. Et donc, on propose aussi tous les mercredis un atelier de fabrication de marionnettes par enfant.
Ouais. Et vous continuez à mener des actions durant l'été ?
Alors, on va peut-être continuer à mener l'action au centre déjeuner à Dinéole. Autrement, tout va s'arrêter avec la période scolaire et on reprendra d'autres projets au mois de septembre.
Voilà, on travaille juste avec un centre de loisirs cet été pour faire un petit atelier de marionnettes et un petit spectacle.
On va intervenir à Melvin.
À Melvin.
Et dimanche, vous avez un petit truc.
Et dimanche, on a le spectacle de la kermesse de l'école Sainte-Anne de Dinéol voilà. avec nos ouais. super élèves. Et ça, c'est trop chouette. On a travaillé toute l'année avec eux.
Ouais.
Ils ont fait un travail magnifique. Et là, c'est des vrais pros. Ils jouent, ils connaissent bien leur spectacle. Ils gèrent tout seuls.
Ils ont joué trois fois dans notre théâtre avec public. Et donc, c'est quand même un bon travail de préparation. Ils connaissent très bien leur déplacement, leur texte, leur manipulation.
Et hier, ils ont eu plein de monde. Ils ont ouais. été applaudis. Ils étaient trop contents.
Ils sont combien, les élèves, là ?
Alors, ils sont 27 en tout.
Mmh. Vous arrivez
En deux groupes. En deux histoires. Il y a deux histoires. On a fait la section des maternelles. Donc, on a 12-13 enfants dans les maternelles. Mmh. Et après, les autres de CP au CM2.
Okay.
Parce qu'on a fait deux histoires, parce qu'il y a quand même deux âges différents, quoi.
Et vous allez intervenir, vous, dans le carré noir avec les élèves, ou ils se débrouillent vraiment tout seuls ?
Alors, avec les maternelles... Simon reste à la technique. Moi, je reste derrière avec Jessica et avec Jessica.
Avec Jessica.
Voilà. On s'occupe tous parce qu'ils sont petits. On a quand même des enfants de 2 ans et demi. Mais on ne les gère pas. Ils font tout seuls. Ils connaissent tout. On est juste là au cas où. Et puis, avec les grands, ils gèrent tout seuls.
Alors, les grands, ils sont autonomes.
Ils sont autonomes. Bon. Ils ont fait tout seuls. Ils assurent. Hein. Vraiment, ils assurent.
Alors, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble un spectacle de marionnettes avec la compagnie La Petite Semelle, eh ben, vous n'avez qu'à venir à Dinéol, à la kermesse.
Exactement.
Voilà, de Sainte-Anne. Merci beaucoup, Dominique Appert et Simon Le Pape, d'avoir participé à l'émission.
Merci.